de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation. Pour prendre un peu de recul face à l'émergence de maladies comme le SRAS ou le SIDA, la vache folle, la grippe aviaire ou le virus Ebola, en nous demandant comment changer d'approche et si ces épidémies n'étaient pas une fatalité, mais plutôt des révélateurs de la gestion approximative du monde vivant par nos sociétés, de la difficile cohabitation entre les mondes humains de plus en plus nombreux et les autres animaux, sans oublier le cortège de micro-organismes, virus et microbes qui les accompagnent. Comment faire avec, faute de pouvoir vivre sans? Voilà ce que nous allons nous demander avec le vétérinaire et épidémiologiste François Moutou, autour de la question: quel rapport entre les épidémies, les animaux et les hommes? Bienvenue. Bonjour François Moutou.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes docteur vétérinaire, épidémiologiste. Vous avez travaillé au sein du laboratoire de santé animale de l'ANSES sur diverses maladies communes à l'homme et aux animaux pour mieux les comprendre et les prévenir. Et vous nous faites partager vos pistes de recherche et de réflexion dans cet essai à rebrousse-poil qui vient de paraître aux éditions du Pommier, des épidémies, des animaux et des hommes. Votre constat, François Moutou, c'est que nous faisons fausse route en pensant que nous pourrions éradiquer ces maladies émergentes ou réémergentes, dont d'ailleurs les animaux ne sont pas les seuls responsables.
Et en fait, oui, parce que dans les années 70, l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, avait commencé une grande campagne d'éradication de la variole qui a été couronnée de succès. Mais aujourd'hui, à ce jour, donc c'est le seul exemple d'une réussite sur une maladie humaine, la variole, avec un virus d'éradication. Alors que malgré tout, l'OMS continue à dire, maintenant on va éliminer la poliomyélite, on va éliminer telle maladie, et les résultats se font attendre. Et donc, peut-être que la question est pas bien posée, et peut-être que la façon de résoudre un certain nombre de problèmes qui existent, les maladies font du mal, les maladies tuent des personnes, c'est évident, n'est pas forcément de vouloir éliminer à chaque fois les agents responsables, mais de mieux les comprendre, de mieux les positionner, de mieux nous positionner par rapport à eux et de comprendre comment nous pouvons, sur le long terme, arriver à cohabiter sans s'exposer.
Mais sans s'exposer.
Oui, et sans forcément aller au-devant d'accidents potentiels.
Autour de la question: quel rapport entre les épidémies, les animaux et les hommes? Je propose tout de suite quelques pistes de réflexion sonore avec le mix épidémiologique, animal et viral de Guillaume Ploquin.
En fait, pour vraiment combattre de manière efficace une maladie, il faut la connaître d'abord.
Blouse, masque, gants, dans ces cartons des centaines de kits de protection contre le virus Ebola. Le risque, la propagation de l'épidémie.
Essayer d'essayer de comprendre comment cette maladie émerge, donc est transmise d'une espèce animale, si c'est une zoonose, à l'espèce humaine.
Les agents responsables de maladies font partie de la biodiversité. On liste les grands singes, on parle des éléphants, on parle des baleines, mais les bactéries, les virus, les parasites sont des éléments de la biodiversité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas.
Comment est-ce qu'on peut expliquer la propagation de ce virus?
Nous avons abattu plus de 20 000 volailles. Elles ont ensuite été transférées à Shanghai pour une décontamination totale.
Je pense que le premier constat, c'est que la démographie humaine est en pleine expansion sur notre biosphère. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pathogènes, comme nous, ont besoin d'une ressource pour se développer.
Interrogation et panique en Grande-Bretagne, où l'épidémie d'encéphalopathie bovine spongiforme a déjà rendu folle 15 000 vaches.
Est-ce que la maladie passe des animaux aux humains?
À partir du moment où cette ressource devient de plus en plus importante dans certains endroits, comme l'urbanisation, il est évident que ceci va les favoriser, va favoriser leur développement et leur transfert.
L'OMS a proclamé l'éradication de la variole en 79. L'éradication des maladies, c'est un programme qui doit être quelque part intégré par la population, approprié par elle.
Le chikungunya est une maladie infectieuse transmise par les piqûres d'arthropodes, notamment par exemple les moustiques. Et donc après transmission de ce virus à l'homme, le virus va se multiplier, disséminer dans l'organisme.
Je pense que la recherche de demain doit prendre en compte ces configurations qu'il y a de communautés entre les pathogènes, des interactions qu'ils ont entre eux pour comprendre l'évolution des pathogènes.
François Moutou, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre, notamment François Renaud, que l'on vient d'entendre.
Mais écoutez, moi je partage tout ce qui a été dit. On est vraiment dans une situation très complexe. Et en fait, on est en train de proposer des solutions ou des réponses à des questions qu'on n'a pas encore bien posées entièrement. On a escamoté un certain nombre de leurs volets. Et donc, on ne risque pas de trouver le bon argument si on n'a pas tous les éléments au départ.
Alors, c'est ce que vous essayez de faire, quand même, de poser les bonnes questions dans votre essai des épidémies des animaux et des hommes qui vient de paraître au Pommier. Vous revisitez toute l'histoire des maladies à la lumière des relations, justement, que nous entretenons avec toutes les autres composantes de la biodiversité, tous les micro-organismes, à commencer par les microbes qui n'ont pas disparu, qui sont même quoi revenus.
Mais en fait, on découvre aussi parallèlement, à côté des agents des maladies, que nous sommes nous-mêmes plein, mais au sens positif, de bactéries, de virus, et qu'on a besoin de toute cette diversité microbienne pour vivre. Sans bactéries, on ne peut pas digérer. Sans certains virus, on serait exposé à d'autres encore plus méchants. Et donc, nous-mêmes, nous sommes un ensemble de différentes espèces vivantes, dont l'homme que je suis ou la femme que vous êtes, mais associé à des quantités de petits microbes.
Et on n'est pas que, on est humain, mais on n'est pas que humain.
Mais
on est humain.
Nous sommes nous-mêmes une symbiose, donc un ensemble qui vivent ensemble et chacun a besoin des autres. Et souvent la maladie, c'est un déséquilibre dans cet ensemble-là. C'est pas toujours un nouveau qui arrive qui prend la place des autres. C'est parfois simplement des relations qui changent, des rapports de force qui vont se modifier. Et cette variation va créer un état de morbidité, de maladie. Et donc, parfois, en luttant contre une maladie, en fait, on va favoriser une autre qui était...
En supprimant un virus qui nous protégeait,
voilà,
entre
ou un ensemble de bactéries qui nous protégeait. Rappelez-vous, quand on prend des antibiotiques, souvent, on reprend après des levures sous forme de produits lactés pour réensemencer le tube digestif, parce qu'effectivement, ces antibiotiques, ils sont pas toujours très spécifiques, ça dépend leur spectre, et ils peuvent avoir des effets au-delà de ce qui est recherché. Et donc, c'est cet équilibre-là, ou cet ensemble de relations qu'il faut essayer de connaître.
Et qu'on a un peu perdu de vue en pensant justement qu'il fallait éradiquer la maladie.
Le discours de l'éradication est tellement simple que tout le monde peut le comprendre, mais il est tellement réducteur qu'il ne peut pas permettre de répondre à la question. Et il est même dangereux, ce discours.
Alors la question, elle porte sur les maladies émergentes ou réémergentes. Alors qu'est-ce que c'est exactement ces maladies? On parle de maladies infectieuses, contagieuses, transmissibles.
Alors ce sont des mots qui se recoupent. Les gens qui ont appris la théorie des ensembles se rappellent de ronds qui se recoupent en partie ou en totalité ou pas du tout. Alors les maladies contagieuses, ça signifie simplement que l'agent qui vous a envahi se transmet d'une personne à une autre assez facilement, de façon directe ou indirecte, par contact, par l'air expiré, parfois par un insecte qui va piquer l'un et transmettre à l'autre. Une maladie infectieuse signifie que l'agent se multiplie au sein de l'organisme où il s'est installé, et transmissible signifie qu'il y a une transmission. Quelle que soit la façon de se transmettre, une maladie infectieuse peut être transmissible, mais une maladie génétique est également transmissible de façon tout à fait différente par d'une génération à la génération suivante. Donc ça, ce sont des mots qu'on emploie régulièrement et qui ont chacun un sens un peu différent. Certaines sont toutes à la fois, certaines ne peuvent pas être à la fois l'un et l'autre.
Et parmi ce qu'on appelle les maladies émergentes ou réémergentes?
C'est une expression qui a émergé, si je peux sans faire de jeu de mots, dans les années 80, 90, et qui a l'avantage et l'inconvénient d'être un peu à la mode. Et du coup, une fois qu'on a dit émergent ou réémergent, on a un peu tout dit, parce que toute maladie peut être dans une ou l'autre catégorie, et du coup, on n'a pas forcément beaucoup avancé. Mais les maladies émergentes sont des maladies qu'on ne connaissait pas, disons, au milieu du XXe siècle,
et
celles
et
qui sont
pensait...
apparues,
oui, c'est ça.
qu'on ne connaissait pas. Ebola, par exemple, est apparu dans les années 1970. Avant, on ne le connaissait pas. Et donc, il y a comme ça pas mal de maladies. Le sida est apparu dans les années 1980, et donc avant, on n'avait pas d'idée que cette maladie pouvait exister chez l'homme. On avait des maladies comparables chez les animaux, mais c'était une constatation, tiens, c'est drôle, cet animal-là, enfin c'est drôle, c'est curieux, cette espèce a un virus qui donne une immunodéficience, l'animal n'a plus de défense immunitaire, meurt de surinfection, voilà, c'était anecdotique. Mais quand on a trouvé un équivalent chez l'homme, c'est devenu tout sauf anecdotique.
Et quand on parle de zoonose, il s'agit de ces maladies-là ou de maladies qui sont chez les animaux qui se transmettent à l'homme?
Les maladies qu'on appelle zoonose, il y a une définition de l'OMS, alors je ne sais pas forcément le mot à mot, mais ce sont des maladies qui passent naturellement depuis les animaux vers l'espèce humaine, et en toute logique que l'espèce humaine peut renvoyer aussi à différentes espèces animales.
Elles ont toujours existé, ces maladies?
Elles ont toujours existé, c'est pas une nouveauté, ça. Et en fait, d'un point de vue biologique, ce qui est intéressant, c'est ou bien le microbe est capable de passer à plusieurs espèces, ou bien il n'est pas capable, il est limité à une seule espèce. Et si une de ces espèces est l'espèce humaine, évidemment, on est concerné, parce que comme c'est nous qui parlons, ben nous rapportons les choses à nous, évidemment.
Autour de la question, quel rapport entre les épidémies, les animaux et les hommes? Je propose d'écouter Alain Bachung sur RFI. Animal, on est mal. Mais bien Gérard Manset et Deus sur RFI, Animal, on est mal. Autour de la question, quel rapport entre les épidémies, les animaux et les hommes, en compagnie du vétérinaire et épidémiologiste François Moutou. Et tout de suite, l'éclairage de l'historien Éric Baratet, qui lui aussi revisite l'histoire des hommes à travers celle des animaux, pour le meilleur comme pour le pire.
Alors, il y a toutes les pestes qui sont tout à fait dans ce cadre-là, puisqu'il y a des vecteurs animaux en direction des hommes. Et cette idée de zoonose, elle a été fondamentale au Moyen-Âge, parce que une grande partie des épidémies étaient à base de zoonose. Et les pestes, les premières, mais il n'y avait pas que ça. On a aussi, au XIXe siècle, toute la vague de la tuberculose d'origine bovine qui se développe parce qu'on se met à consommer du lait de vache. Et avec des vaches qui sont dans une situation sanitaire assez médiocre. Et bien évidemment, ça se transmet par le lait que l'on consomme. Et cette épidémie, si on peut dire, de tuberculose va être véritablement à son apogée fin 19e jusqu'à l'entre-deux-guerres à peu près. Donc c'est quelque chose vraiment qui a structuré fondamentalement l'histoire humaine. Et ce qui est intéressant, c'est que ces zoonoses ont été très très fortes, on les a oubliées, elles ont été très fortes entre l'Antiquité, la fin du Moyen-Âge, et puis elles ont petit à petit disparu. Il y a eu comme une séparation des maladies, et on les voit revenir. Donc là, il y a quelque chose qui serait intéressant de voir comment et pourquoi il y a eu cette séparation et pourquoi maintenant on voit des zoonoses se remettre en place.
François Moutou, est-ce qu'on voit des zoonoses se remettre en place, que ça s'est arrêté, que ça revient, vous?
En fait, c'est intéressant ce discours, mais j'ai pas du tout étudié cette question-là, et donc il faudra un peu plus de temps pour prendre les éléments indispensables. Mais ce qui est vrai, c'est que à partir du Moyen Âge et à partir du moment, en fait, mais c'est pas venu à la fin du Moyen Âge, c'est un peu plus tard où l'hygiène s'est améliorée. On a évidemment amélioré la santé, puisque souvent les maladies sont simplement les conséquences d'une hygiène déplorable. Et même sans connaître les bactéries, ça date simplement du 19e siècle, on était capable, si on faisait un peu attention, si les gens avaient un tout petit peu de bon sens, de se protéger contre certaines d'entre elles. Et c'est vrai que depuis quelques siècles, la population européenne, et en gros occidentale, c'est un peu éloigné des animaux, même si ça s'est vraiment accéléré récemment. Et maintenant, on est tous majoritairement urbains, y compris au niveau de la planète. Et on voit émerger un certain nombre de maladies, comme des allergies, comme des maladies auto-immunes, où nos propres anticorps commencent à attaquer notre propre organisme, avec beaucoup d'interrogations pour les comprendre, ces maladies. Et une des explications serait que nous ne sommes plus assez au contact des animaux, de la ferme par exemple, et que tant qu'on avait des relations régulières avec les animaux de la ferme en respectant une certaine hygiène, on pouvait se protéger de leurs maladies, mais on entretenait notre immunité. Et aujourd'hui, on a été au-delà de ce seuil qui devient peut-être un problème pour notre santé.
Donc ça, ce serait inversement un problème pour notre santé, surtout qu'aujourd'hui, sur notre planète, et vous le dites aussi dans votre livre, on est de plus en plus nombreux. Vous aviez écrit une première version au moment de l'épidémie du SRAS, où on était moins nombreux sur Terre, c'était il y a une dizaine d'années.
On a gagné quelques centaines de millions, peut-être pas un milliard, mais quelques centaines de millions d'habitants sur la planète entre l'édition de 2007 et cette réédition.
Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards sur la planète.
On est 7 milliards, et ça c'est vraiment très spectaculaire et très impressionnant, parce que on sait qu'en épidémiologie, il y a un certain nombre de phénomènes qui ne sont pas proportionnels au nombre de la population, par exemple, à son effectif, mais qui sont sensibles à des effets de seuil. Si on passe un certain effectif, le phénomène peut se développer. Jusque-là, il est sporadique, il est ponctuel, mais il ne peut pas se maintenir. Et si la population dépasse un effectif donné, qu'on ne connaît pas forcément en fonction du risque qu'on met en face, on peut avoir l'émergence de ce phénomène et sa stabilité et son maintien dans la population.
Ce qui pourrait être une des explications aussi de certaines épidémies, du développement de certaines épidémies aujourd'hui.
Ben, si je reviens à la tuberculose qui a été citée tout à l'heure dans cette interview, en fait, l'histoire de la tuberculose est compliquée entre celle des bovins et celle des humains. On pense aujourd'hui que c'est l'homme qui a récupéré la mycobactérie de la tuberculose dans son environnement il y a très longtemps, à l'époque où il était encore chasseur-cueilleur, et que quand il a domestiqué les vaches, il leur a transmis sa bactérie qui est devenue la tuberculose bovine.
C'est l'homme qui l'aurait transmis aux vaches.
C'est l'homme qui a contaminé les bovins, et à l'époque, jusqu'à la pasteurisation du lait, on pense que un tiers à peu près des cas humains étaient liés au lait contaminé. Mais donc la majorité restait quand même d'origine humaine. Et par contre, ce qui explique l'explosion de la tuberculose dans la population humaine au 19e siècle, c'est malheureusement la révolution industrielle et tout le prolétariat associé, les conditions déplorables de vie des ouvriers en Europe, pas uniquement en Grande-Bretagne, qui est toujours citée, Dickens, etc. C'est l'image d'Épinal, mais c'était plus général que ça. Et donc cette baisse d'immunité liée à ces mauvaises conditions de vie ont permis à la tuberculose d'exploser dans la population humaine.
Et aujourd'hui, il y a un retour de la tuberculose.
Elle revient très très bien avec le sida, qui touche des millions de personnes, qui baisse l'immunité, et comme ces mycobactéries sont présentes assez régulièrement dans l'environnement, que beaucoup de gens sont porteurs sains avec très peu de conséquences, dès qu'un individu a une faiblesse immunitaire, la bactérie qui n'est pas loin peut se développer et peut l'envahir et peut éventuellement le tuer même.
Autre souci aujourd'hui, enfin sur ce développement des épidémies, c'est aussi le fait que les 7 milliards d'êtres humains que nous sommes sur Terre voyagent.
Alors ça, c'est aussi un chiffre qui m'a très étonné quand je l'ai découvert. On est 7 milliards et à peu près tous les ans, donc de 2014, il y avait 3 milliards de personnes qui ont pris l'avion pendant l'année 2014.
3 milliards de personnes qui ont pris l'avion sur un an.
Et donc 3 milliards, c'est presque la moitié des gens. Alors, il peut y avoir une personne qui voyage plusieurs fois dans l'année. Mais c'est quand même énorme comme pourcentage par rapport au total de la population mondiale, ce qui veut dire que un microbe qui monte sur quelqu'un, qui prend après l'avion, sera quelques heures après à l'autre bout de la planète, et on est incapable d'empêcher ces mouvements.
Quel rapport entre les épidémies, les animaux et les hommes? C'est la question autour de laquelle nous tournons, et nous allons tourner dans 3 minutes. On se retrouve juste après le flash d'info avec vous, François Moutou, pour essayer de changer de regard, de percer perspective et d'approche, si c'est possible. À tout de suite.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie. Autour de la question, quel rapport entre les épidémies, les animaux et les hommes, nous interrogeons en compagnie du vétérinaire et épidémiologiste François Moutou, auteur d'un essai, des épidémies, des animaux et des hommes, sur les maladies émergentes ou réémergentes. Sont-elles une fatalité ou bien des révélateurs de la gestion approximative du monde vivant par nos sociétés? Et dans ce cas, comment faire autrement? Comment réviser notre approche et nos stratégies? Il est essentiel de se poser la question, toutes ces questions, à l'heure où l'épidémie d'Ebola continue de sévir à la frontière de la Guinée et de la Sierra Leone, comme vous pouviez l'entendre, amis auditeurs, sur notre antenne, le 7 juin, au micro de Guillaume Thibault.
La zone frontalière Guinée-Sierra Leone est l'objet de toutes les attentions. C'est là que la persistance de l'épidémie est la plus forte. C'est là également que les mesures prises depuis des mois sont le moins bien appliquées. Pour Sakoba Keïta, le coordinateur national de la lutte contre Ebola, la priorité, c'est de limiter les déplacements des populations.
Nous sommes en train d'affiner nos stratégies pour empêcher surtout le contact de quitter d'une localité à une autre et essayer de mettre en place un système pour identifier tous les cas de décès et leur faire un enterrement digne et sécurisé.
François Moutou, face à cette épidémie d'Ebola, comment pourrait-on réviser notre approche ?
C'était vraiment une histoire tragique et une histoire très compliquée également. C'est un virus donc qui est connu depuis les années 1970. Et la surprise, la mauvaise surprise, c'est d'avoir vu apparaître dans l'ouest de l'Afrique, donc Libéria, Sierra Leone, Guinée, alors qu'on ne le connaissait pas du tout dans cette région.
C'était en Afrique centrale.
Exactement, centrale. Donc c'était Zaïre, Soudan, Congo, Gabon. Enfin, c'est toute la zone du centre de l'Afrique. Et là, il a vraiment fait. Côte d'Ivoire aussi avait été touchée avec un virus, heureusement un peu moins méchant, si je puis dire, que ceux qui étaient un peu plus à l'est. Et là, le virus qui a émergé donc l'an dernier est aussi méchant que ceux qu'on a connus un peu plus à l'est, et dans une zone qui alors cumulait sans doute des facteurs défavorables d'un point de vue humain. Ce sont des zones qui sont assez peuplées, peut-être plus densément que certaines zones de forêt au centre de l'Afrique. C'est une zone avec plusieurs pays, donc des passages de frontières, ce qui fait que chaque pays ne peut intervenir que dans son territoire. Des territoires qui malheureusement ont été tellement bouleversé par toutes les guerres civiles qui se sont succédées pendant des décennies sur certaines de ces zones. Et qu'est-ce qui peut rester derrière si ce n'est des populations un peu désemparées, pas d'administration, plus de confiance en qui que ce soit, et aucune expérience, aucune expérience de cette maladie-là qui nécessite d'avoir une vraie expérience pour prendre les bonnes mesures de la bonne façon. Et donc tout ça cumulé fait qu'on arrive à un bilan dramatique de presque 30 000, enfin 27 000 cas à ce jour et 11 000 décès, alors que jusqu'à présent, le nombre de cas cumulés sur les 30 années précédentes, c'était peut-être 4 000 décès, je crois. Donc c'est vraiment, on a changé presque d'échelle par rapport à ce qui était connu jusque-là.
Et en même temps, enfin, ce virus, des chercheurs avaient identifié les animaux qui sont les réservoirs de ce virus, ce sont les chauves-souris.
Alors, il semble que en tout cas, l'ancêtre ou les précurseurs de virus, ceux qui vont déclencher des épidémies, se trouvent probablement, même s'il y a encore des questions à préciser, des réponses à apporter, des confirmations surtout à vraiment publier, se trouvent chez certaines espèces de chauves-souris qu'on trouve en Afrique, dans tropicale. Maintenant, la question, c'est à partir du moment où le virus s'échappe de ce réservoir sauvage, comment est-ce qu'il passe dans l'espèce humaine? Est-ce que c'est directement par contact chauve-souris homme? Est-ce qu'il passe par un intermédiaire qui sont peut-être d'autres mammifères que les chauves-souris contaminent directement, indirectement et que les gens consomment? En tout cas, les gens s'exposent à ces animaux peut-être en les chassant, peut-être en les dépeçant et après en les consommant. Et ensuite, il est possible que l'essentiel des cas humains ne soit que des contaminations d'homme à homme à partir du moment où le premier cas s'est contaminé auprès du réservoir animal. Et ce ne sont pas 30 000 personnes qui se sont exposées à un animal porteur du virus. Il y a eu certainement, peut-être plusieurs dans ce cas-là, je ne sais pas si on a encore la réponse, plusieurs cas index, donc le premier, celui qui malheureusement récupère le virus du réservoir animal. Mais après, les habitudes, les contacts avec la famille, avec la société, la communauté, font que le malade peut contaminer son environnement. On a malheureusement trop de cas dans des centres de soins où les malades, par rapport à des soigneurs et des soignants qui sont pas assez protégés, peut-être pas assez informés, peut-être pas assez équipés, tout simplement, également, en essayant de le soigner, vont s'exposer, et on arrive comme ça à déclencher des épidémies qui peuvent être dramatiques.
Donc en fait, l'intérêt, c'est d'arriver à comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, comment une épidémie peut se développer, plutôt que d'essayer d'abattre les animaux concernés, comme ça a été le cas pour d'autres épidémies sur lesquelles vous avez travaillé.
Oui, mais même dans le cas des chauves-souris, si les chauves-souris sont vraiment le réservoir, il y a des raisons de penser que c'est sans doute le cas, même s'il faut encore le démontrer, je répète. Hein. Mais comment font-elles ? Si elles ont ce virus, et apparemment elles n'ont absolument rien, comme
elles,
clinique,
elles
sont parfaitement à l'aise avec ce virus, essayons de comprendre comment elles font. C'est peut-être un modèle exceptionnel que
pour
nous avons
pour arriver nous-mêmes
pour comprendre.
À nous.
Alors il y a des projets de réflexion sur le système immunitaire des chauves-souris, parce qu'elles sont capables de vivre avec ce virus-là, avec celui de la rage, avec d'autres virus qui sont pas toujours très sympathiques avec notre espèce, voire nos animaux de compagnie ou nos animaux d'élevage. Mais si les chauves-souris savent vivre avec, apprenons leurs secrets. Allons comprendre comment elles font, et à partir de ce moment-là, on sera peut-être capable de vivre chacun dans son écosystème, même si on partage évidemment un certain nombre de choses, mais il faut pas forcément voir les animaux comme le mal absolu qu'il faut absolument éliminer, sinon la planète sera, malheureusement, ça risque d'arriver peut-être même pour d'autres raisons, parce que on prend toujours plus de place, on a toujours plus de besoins, nous humains, pour planter des cultures, pour vivre, pour faire des stades de football, enfin je sais pas, on a besoin de beaucoup d'espace, et tout ça c'est au détriment du reste. Mais je ne sais pas si le monde sera meilleur s'il n'y a plus que nous sur Terre. Je ne suis pas certain.
En tout cas, vous dites apprendre à vivre avec, donc à cohabiter. On était en Afrique, notamment avec les moustiques, la lutte contre le paludisme. C'est compliqué. Ce qui marche, en tout cas, c'est plutôt du côté des moustiquaires, des antirépulsifs, de finalement d'apprendre à vivre avec sans trop s'exposer, c'est ça?
Mais c'est sûr que c'est un problème tellement difficile, et quand on voit les... Là aussi, c'était une maladie qui avait été annoncée comme étant à éradiquer par l'OMS dans les années 70-80, et aujourd'hui, malheureusement, non seulement on n'y est pas, mais on voit des zones qui sont peut-être recolonisées, même s'il faut être très prudent dans les expressions. Il y a aussi des fluctuations climatiques saisonnières, donc explique que parfois, les zones humides se déplaçant, les moustiques peuvent suivre, après ça va se rétracter, donc il y aura des zones qui vont apparemment être libérées de cette pression-là. Mais c'est compliqué parce qu'il faut protéger à la fois l'habitation, le village, là où on habite. Il faut peut-être aussi aller regarder du côté des réservoirs en dehors de la zone habitée. Mais si, quand on visite une maison dans des zones à paludisme, on voit des récipients qui sont là pour la décoration, pour différentes raisons, ou parce qu'on n'a pas trop fait le ménage, et qu'il y a de l'eau dedans, et que quand on regarde, on voit des larves de moustiques dedans.
Ça, c'est les réservoirs moustiques.
Et si on élève les moustiques chez soi, évidemment qu'on s'expose. Donc il faut aussi que chacun prenne en charge sa responsabilité autour de son espace de vie, et que le message passe auprès des voisins, auprès des amis, auprès de la communauté, pour que chacun aussi, les vieux pneus par exemple, dans les pays où il pleut beaucoup, c'est un récipient magnifique pour l'eau, et donc pour que les moustiques viennent pondre. Et un vieux pneu qui est comme ça posé par terre, c'est très compliqué de vider l'eau qui est dedans. Je sais pas si vous avez essayé, mais il reste toujours un peu d'eau, donc il y aura toujours de l'eau.
Ça suffit pour les moustiques.
Et bien sûr.
Autour de la question, quel rapport entre les épidémies, les animaux et les hommes, je propose un nouvel éclairage, François Moutou, en forme de question posée par l'entomologiste Vincent Albouy.
On a parlé de la mouche tsetse, hein, qui est vecteur de la maladie du sommeil. Ils sont vecteurs et victimes, puisque la mouche tsetse est aussi affectée par le micro-organisme qu'elle transporte. Oui, les principaux problèmes sanitaires en médecine humaine sont liés à des maladies transmises sur les insectes, notamment la malaria, la fièvre jaune, qui reste la maladie la plus largement répandue dans le monde et, à ma connaissance, celle qui tue le plus de 200 millions de morts par an.
Et les insectes eux-mêmes sont aussi victimes des maladies qu'ils transportent ?
Parfois, oui, ils peuvent être victimes, et parfois non. Le moustique, par exemple, n'est pas victime, mais la mouche tsetse, elle est affectée par le trypanosome, qui fait qu'elle se nourrit moins bien, ce qui fait qu'elle est obligée de pomper plus souvent, donc finalement de piquer plus souvent, donc ça multiplie les chances pour le parasite de se multiplier. Enfin voilà, en quelque sorte, le micro-organisme manipule la mouche tsetse pour pouvoir se reproduire encore mieux.
Est-ce que vous avez une question pour François Moutou ?
Est-ce qu'on peut trouver un parallélisme entre l'évolution des mammifères et l'évolution de leurs parasites ? Ou est-ce que les insectes, au contraire, sont opportunistes et finalement, dès qu'il y a des espèces de mammifères qui apparaissent, passent d'une espèce à l'autre.
Que pouvez-vous répondre, François Moutou, à l'entomologiste Vincent Alboui?
Bonne question, Vincent, bonne question. Alors, moi, je pourrais prendre l'exemple des puces et des poux.
Des puces et des poux.
Oui, en disant la chose suivante. Le poux, enfin les poux, il y a plusieurs espèces de poux, vivent entièrement dans le pelage ou sur le corps du mammifère parasité. Et donc, ils pondent les œufs, ce sont les lentes, sur les cheveux, sur les poils. Et donc, les petits poux, les bébés poux, vont, etc., suivre leur cycle sur place.
On connaît, hein, oui.
Et donc, il y a un bon parallélisme entre les poux de l'homme, les poux des primates, les poux des mammifères. Tout ça a coévolué avec le temps et certainement au cours de l'évolution.
Chaque poux a coévolué avec
voilà,
l'espèce qu'il parasite.
Il y a forcément des poux opportunistes, je suis d'accord aussi. Ils peuvent changer d'espèce. Tiens, allons voir à côté, l'occasion se présente. Mais ce ne sont pas des bêtes qui courent beaucoup, et donc c'est vraiment le contact qui permet de passer d'une espèce à une autre. Les phoques ont des poux, hein. Il y a des poux qui sont capables de tenir des apnées le temps que le phoque aille plonger.
Ah, ils ont coévolué pour aller dans l'eau.
Ah, bien sûr, ils s'accrochent au poil et ils remontent à la surface sans tuba, sans rien, et donc il y a vraiment des adaptations étonnantes entre les poux et leurs hôtes. Alors les puces, c'est une histoire assez différente, avec des animaux extrêmement évolués, mais qui, à un moment de leur vie, lorsqu'elles pondent, quittent l'hôte, et les larves qui sortent des œufs se développent dans la litière d'un terrier. Elles mangent des débris organiques, et elles muent une dernière fois, comme les papillons, enfin les chenilles qui deviennent papillons, comme beaucoup d'insectes, et c'est la forme adulte, on dit l'imago, qui va remonter sur l'hôte et commencer ses repas de sang. Mais donc, ça veut dire qu'il faut que le mammifère en question, il ait un terrier où il vient régulièrement, où les bébés puces, lorsqu'elles vont éclore, lorsqu'elles vont devenir adultes, vont trouver, avec une bonne probabilité, l'hôte. Or, nos ancêtres grands singes, primates, à l'époque de cette différenciation, étaient des nomades, n'avaient pas de campement permanent, et aujourd'hui, les gorilles, les chimpanzés, font des nids tous les soirs, mais en changent tous les jours.
Donc les puces
donc,
peuvent
les
pas
puces
s'accrocher
terminées.
Là.
Donc oui. Quand on est passé de l'ancêtre avant les primates à ce stade de façon de vivre, on a perdu nos puces. Or, vous savez peut-être que l'espèce humaine a une puce. Donc cette puce-là, c'est un insecte opportuniste qui a trouvé sympa de venir nous envahir à partir du moment où on a domestiqué et on a commencé à avoir une vie sédentaire avec les villes, donc à partir de 10 000 ans à peu près, 11 000 ans. Et donc forcément, cette puce, elle vient d'un autre animal, d'un autre type de mammifère avec lequel on a cohabité depuis ce temps-là. Et donc il y a deux hypothèses. Ça peut être les rongeurs qui se sont dépêchés de profiter de nos greniers à grains, parce que imaginez, pour une petite souris, trouver un grenier à grains, c'est le paradis. Et les chiens, probablement le chien domestiqué à partir du loup. Et il y a une fameuse expression qui dit qui dort avec son chien se lève avec des puces. Et ben c'était peut-être vrai, et peut-être qu'il y a donc le chien l'a domestiqué d'ailleurs bien avant la révolution néolithique, il y a peut-être 30 000 ans, et peut-être depuis 30 000 ans, enfin il y a 30 000 ans quand on a commencé à cohabiter avec les loups dont on a fait des chiens, la puce a trouvé sympa de voir un peu comment c'était à côté.
Donc elles sont malines les puces, elles se sont coquinées avec nos chiens pour pouvoir revenir chez les hommes.
Elles n'ont pas fait peut-être exprès, je ne sais pas si la puce a pensé à tout ça, mais en
il y
tout
a une
cas,
co-évolution.
Le bilan c'est que maintenant on a une puce chez nous, et qu'on trouve également chez le chien, et qui certainement vient d'un autre mammifère non primate, et depuis pas très longtemps dans l'histoire de l'évolution.
Ce qui montre aussi cette proximité justement entre les animaux et nous, d'ailleurs nous sommes des animaux ou les hommes nous sommes...
C'est une question qu'on peut discuter, bien sûr, hein, où est la barrière, est-ce qu'il y a une barrière, sans doute pas, et il faut pas... Je pense qu'il faut... Enfin, on en reparlera peut-être, mais on peut dire que l'homme est un autre animal, ou... En tout cas, la frontière est très très difficile à positionner, et on partage tellement de choses qu'on ne voit pas très bien pourquoi on aurait un statut tellement différent des autres.
Alors on partage aussi, hein, on l'a dit, parce que c'est le sujet du jour, nos épidémies et nos maladies avec les animaux. On a parlé d'évolution et de coévolution dans la question de nos auditeurs à Dakar qui nous dit, mais est-ce que ces maladies donc émergentes, est-ce qu'elles sont aussi le fruit de notre évolution humaine?
Alors, une des réponses, c'est dans le mot évolution, je le prendrai dans un sens un peu particulier, c'est que on ne vit plus du tout aujourd'hui comme on vivait, en tout cas dans certains pays, comme on vivait il y a quelques siècles, voire quelques millénaires, bien sûr. Et du coup, on a ce qu'on appelle le progrès, modifié notre environnement, créé des objets, des façons de vivre, des contextes de vie extrêmement différents de ce qui était autrefois le cas. Et par exemple, on a créé dans les capitales, dans les grandes villes, des systèmes de refroidissement de l'air là où trop chaud. Et donc, vous savez que quand on refroidit l'air, il y a de l'eau qui est condensée dans l'air sous forme de vapeur qui redevient liquide. Et donc, tout le système de refroidissement des grands immeubles dans les grandes villes, là où ça tourne en permanence, ont des bacs de récipients d'eau.
Et là aussi,
il se trouve
c'est bon
que
pour
cette
les, pour les
eau-là, c'est idéal pour une bactérie qui s'appelle la Legionella, qui était pratiquement inconnue avant la deuxième moitié du XXe siècle, et à qui on a offert le milieu de vie idéal pour qu'elle se développe.
Donc là, notre progrès. Nous.
On a créé la Legionellose, donc une maladie qui utilise ces systèmes de refroidissement, qui utilise du coup tous les systèmes d'air associés et qui se vaporise avec ces systèmes de circulation. Et donc, on a créé des conditions pour favoriser des épidémies d'une bactérie qui ne demandait rien à personne, qui était quelque part dans les flaques d'eau un peu perdue toute seule. Et là, on lui a donné ce qu'elle espérait, je ne sais pas si la bactérie espérait grand-chose. En tout cas, on a créé son milieu de vie et les conditions pour pouvoir contaminer les personnes. Et donc, ce n'est pas l'évolution de nous en tant que biologique, mais c'est notre évolution en tant que technologique.
Autour de la question, quel rapport entre les épidémies, les animaux et les hommes, je vous propose d'écouter Art Mango sur RFI, Sac à puce.
Des révolutions, pas toujours autour d'un soleil. De grandes soirées, des bataillons, de sardines au port de Marseille. Des promesses de vie plus bandantes. Et des pilules multicolores pour du bonheur. Lumière ambiante. Il y en a eu des évolutions, descendues d'un arbre africain, et des Adam un peu moins cons, des Ève un peu plus libres enfin, des avions gris par réaction. De virus et prions, mais rien n'a changé, cher Médor. Car le meilleur ami de l'homme, ça reste un sac à puce encore. Un sac à puce Intel Pentium. Il y en a eu des résolutions pour voir plus de bleu dans le ciel. De hautes et belles résolutions, avec des millions de pixels, y en a eu des révolutions. Des murs tombés sur des crépis, avec tours jumelles en béton, mais rien n'a changé, cher Médon. Car le meilleur ami de l'homme, ça reste un sac à puce encore. Un sac à puce Intel Pentium. Rien n'a changé, on se demande. Avec la wifi fil fantôme, lequel tient la laisse et commande. Du sac à puce ou bien de l'homme.
Capus, Art Mango sur RFI, autour de la question quel rapport entre les épidémies, les animaux et les hommes, nous essayons de changer de regard sur le monde vivant qui nous entoure et dont nous faisons partie. Nous les humains, au milieu des autres espèces, ni au-dessus ni en dessous, en compagnie de l'épidémiologiste François Moutou, relayé maintenant par la philosophe et éthologue Vinciane Després, qui va même un peu plus loin dans cette évolution, révolution des mentalités.
Juste une réflexion que je me fais en écoutant non seulement la préoccupation, mais l'extension que ça prend, c'est peut-être aussi des phénomènes qui nous aideront peut-être à remettre en cause ce qu'on appelle les barrières spécifiques et les frontières entre les catégories, d'une certaine manière, puisque ça veut dire aussi qu'il y a des communautés, finalement, c'est une autre façon de repenser le brouillage possible des frontières entre les différentes espèces.
Mmh. repenser les frontières entre les différentes espèces. Vous iriez aussi loin que Vinciane Després?
Ah oui, moi j'irais tout à fait dans ce sens-là. Je ne sais pas si je vais au-delà, mais en tout cas, j'étais très surpris parce que cette notion de barrière d'espèce, objectivement, je n'ai pas souvenir d'en avoir entendu parler avant La Vache Folle. Quand j'ai étudié, ça fait longtemps, d'accord, mais c'était quand même au XXe siècle. Donc, on apprenait les zoonoses, les agents qui pouvaient passer d'une espèce à une autre, mais on n'évoquait pas cette notion de barrière. Et plus j'y réfléchis, alors je commence à écrire des choses parce que peut-être je mettrai vraiment noir sur blanc. J'ai eu l'impression qu'on a inventé, ou en tout cas utilisé cette notion-là à partir de La Vache Folle, pour essayer de se justifier en disant, écoutez, il y avait une barrière d'espèce autour de nous, et on est très, très étonnés, elle a été franchie, mais c'était pas prévu.
C'est a posteriori, enfin.
A posteriori, pour se dire, écoutez, c'est pas de notre faute, nous, on était bien protégés, on avait tout ce qu'il fallait autour, et voilà, c'est vraiment une mauvaise surprise, mais c'est pas de notre faute, on se déresponsabilise de ce qui s'est passé. Alors, on dit pas que, je sais pas qui était coupable, mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses? Parce que finalement, une barrière, c'est fait pour quoi? Mais pour être transgressé. Une barrière, quand on envoie nous-mêmes, individu, quelquefois, on passe dessus, on passe à droite, on passe à gauche. Les barrières, on les franchit quand même, on les ouvre. Heureusement qu'on les ouvre. Alors, on a aussi mis une barrière autour de l'espèce humaine en disant, ben voilà, nous on est les hommes et les autres, ben voilà, c'est pas pareil. Et puis il y a des gens qui ont mis des barrières entre les hommes. Enfin, je vais pas refaire l'histoire, je suis pas du tout bien placé pour ça, mais il y a des gens qui ont dit, moi je suis un vrai homme, lui c'est pas un vrai homme, donc voilà ce qu'on peut en faire de lui. Et donc ça c'est vraiment une notion, à mon avis, qu'il faudrait sortir de la biologie, de la médecine. Et donc sortir des sciences humaines aussi, on est tous un peu différents, il y a des continuums, il y a un moment, il y a quelque chose qui apparaît, mais est-ce qu'il n'y a pas une trace de cette émergence un petit peu en amont chez l'autre?
Et on partage certains chercheurs disent choses. qu'on est un peu des chimères, enfin on est des mélanges de cellules et de virus.
Nous sommes des symbioses et nous sommes des chimères.
Des symbioses et des chimères.
Mais oui, dans mon ADN, j'ai un petit peu d'ADN de monsieur Néandertal ou de madame Néandertal et d'un autre homme qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps qui vient de Sibérie, qu'on a trouvé en Sibérie, on ne sait pas d'où il venait. Et donc finalement, qu'est-ce que c'est moi? Moi, c'est, si je retire tout ce qui n'est pas moi de moi, qu'est-ce qui va rester? Est-ce que je serai encore viable, voire vivant? Peut-être pas. Donc, heureusement que j'ai tous ces apports qui m'enrichissent. Et heureusement qu'il y a, et c'est vrai aussi au niveau de la culture. Imaginez si on n'avait jamais communiqué avec le voisin de l'autre côté de la frontière. Alors, en niveau européen, moi, je trouve que c'est extraordinaire qu'on ait un peu ouvert nos frontières entre nos pays. Mais quand on regarde sur un planisphère, ici, on en voit bien des planisphères. On est tout petit en Europe par rapport à tout ce qu'il y a en Asie, en Afrique, en Amérique. Ouvrons tout ça. Alors, il faut pas être naïf. Non plus.
C'est le discours d'un épidémiologiste aujourd'hui, que de dire, justement, ouvrons les frontières.
Mais oui, mais parce que, en fait, on fait semblant d'en mettre, et avec une hypocrisie incroyable, on laisse tout passer, parce que, soi-disant, ça va ralentir le commerce si on fait des contrôles sanitaires. Alors, attendez, ou bien on fait du contrôle, ou bien on n'en fait pas. Mais soit, si on dit, faites du contrôle, il n'y a pas d'argent pour le faire, ou bien, il y a une dérogation, parce que là, ça va embêter un tel ou un tel, c'est quand même pas comme ça qu'on va régler les problèmes. Donc, il faut réfléchir autrement, et je pense pas qu'on se soit engagé jusqu'à présent dans la bonne façon de faire.
Ah, pour réfléchir autrement, vous nous dites aussi dans ce livre, des épidémies des animaux et des hommes, François Moutou, biodiversité et santé humaine, même combat.
Mais oui. Mais on a besoin de tous les autres. Et alors, même si il y a des discussions, il faut aller plus loin dans ces discussions, il y a des éléments qui semblent dire qu'un écosystème qui a été moins modifié, donc moins diminué, est mieux capable de réagir par rapport à une agression microbienne et que les espèces qui sont présentes dans ces écosystèmes ont plus de chances de réagir positivement et de, alors peut-être il y aura quelques pertes, mais que la population va s'en remettre et récupérer de ces pertes. Et que inversement, un écosystème qui a été très modifié, s'il est agressé par un micro-organisme qui vient de droite ou de gauche, il aura sans doute des pertes beaucoup plus importantes et moins de possibilités de récupération. Et un exemple, ce sont nos grands élevages. Il y a eu une phrase au tout début sur les élevages de poulets. Maintenant, nos élevages de poulets qui, économiquement, on peut comprendre pourquoi les gens ont fait ça, ils sont tous pareils, ce sont des clones pratiquement, ces individus. Mais quand vous avez 20 000 clones, tous pareils, et que le microbe qui rentre là-dedans fait affaire avec le premier, il fera affaire avec les 19 999 autres, et ils seront tous contaminés et ils seront tous à éliminer. Alors, la mosaïque de diversité, elle propose un autre schéma, et le microbe, il n'aura pas devant lui une armée de clones dans lesquels il pourra se balader. Alors, il faut réfléchir à jusqu'où aller, mais il y a peut-être aussi des excès dans certains sens, qui ont été favorables aux microbes et pas favorables à nous, finalement, et même à la biodiversité et à l'économie globale.
Donc, en fait, il faut essayer de réfléchir quoi? Une sorte, c'est pas vraiment d'équilibre, un équilibre qui serait
Dynamique, qu'il soit mobile, il peut pas être stable, parce que la stabilité, c'est le contraire de la vie. La vie, enfin, quelqu'un l'a dit, la seule constante, c'est le changement. Donc tout change tout le temps, mais
la seule constante de la vie, ce serait le changement et ce serait une forme de diversité.
Mais
enfin,
oui, mais oui, mais c'est vrai aussi pour notre espèce. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait sinon?
Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie beaucoup, François Moutou, d'être venu en direct, nous faire partager toutes ces pistes de réflexion et d'interrogation sur nous-mêmes et sur tous les autres qui nous entourent. Je rappelle le titre de votre essai qui vient de paraître aux éditions du Pommier, Des épidémies, des animaux et des hommes, à lire absolument. Regarder autrement la Terre qui nous porte et d'approfondir nos connaissances sur cette formidable biodiversité qui nous entoure encore. À suivre demain avec Guillaume Ploquin à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, amis auditeurs, portez-vous bien, surtout restez curieux et gardez l'esprit libre et ouvert. Merci de votre fidélité et de votre interactivité. Dans quelques instants, c'est l'heure d'un nouveau journal sur RFI.